foi, qui est une chose très importante, comment, dans l'acte créateur, il ne peut pas y avoir d'instrumentalité. Dieu ne peut pas se servir d'instrument pour créer. Ceci montre immédiatement l'erreur du néoplatonisme qui veut que la création se fasse selon une émanation progressive en se servant de la créature supérieure pour la créature suivante, et ainsi de suite. Alors c'est une erreur qui provient de la confusion entre le point de vue de la communication vitale et la création. Dans le néoplatonisme, la distinction entre vie et être n'est pas suffisamment nette. Alors, par le fait même, on considère le point de vue de la création sur la modalité, sur l'exemple, le prototype de la communication de la vie. Dans la communication de la vie, il peut y avoir un instrument. Il peut y avoir un instrument dans la communication de la vie, tandis qu'il n'y a pas d'instrument dans la communication de l'être. Pourquoi ? C'est très simple, parce que justement, la vie n'est pas ce qui est fondamental et premier. La vie présuppose l'être. La vie n'existe que dans un être parfait. Elle est autre chose que l'être. Donc, parce que l'être, c'est ce qu'il y a de fondamental et de premier, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'instrument. La conséquence immédiate de cela, c'est le mystère de la présence, de l'omniprésence de Dieu. Une omniprésence qui se fait non seulement par le point de vue de la vertu, mais qui se fait aussi par le point de vue de la substance. Substance à substance. Ce que nous avons de la peine à comprendre, parce que ça ne peut se comprendre qu'au niveau métaphysique. Mais il y a une immédiateté de substance dans la présence d'immensité. Le Créateur est présent dans ce qu'il a de plus lui-même, c'est-à-dire dans sa propre substance, à tout ce qu'il crée. Et c'est pour ça qu'il y a l'omniprésence de Dieu au plus intime de notre âme. Alors ça, c'est un problème, un mystère, si vous voulez, qui est très très important pour nous. Il faut y revenir souvent, ça. C'est pour ça que la création est indispensable, vous voyez. Je crois que si on ne regarde pas le problème de la création, toute la théologie dégringole d'un seul coup. Et on ne peut regarder le problème de la création que dans une perspective métaphysique. C'est là où on voit le caractère indispensable de la métaphysique distinct du point de vue de la communication de la vie, si on veut comprendre ce que c'est que l'omniprésence de Dieu. Et l'omniprésence de Dieu, vous le savez bien, Jean de Saint-Thomas, avec beaucoup de précision, montre que la présence de la grâce de Dieu en nous ne peut se comprendre que par l'omniprésence. Autrement, nous ne comprenons pas. Nous restons dans l'ordre de l'intentionnalité. C'est par l'omniprésence de Dieu que nous comprenons qu'il y a, dans le point de vue de la grâce, quelque chose de substantiel. Ce qui est quand même très important. Parce qu'autrement, on confond l'aspect spirituel et l'aspect mystique. Et il faut toujours distinguer les deux. Il y a des gens spirituels qui ne sont pas des mystiques. Et quelquefois même, c'est les plus opposés à la mystique. C'est curieux. La querelle de Fénelon et Bossuet. C'est au fond la question du spirituel et du mystique. Et le point de vue spirituel reste dans l'intentionnalité. Le mystique comprend qu'il y a quelque chose de plus, parce qu'il comprend qu'il y a cette omniprésence de Dieu, qui est une présence de substance à substance. Il n'y a pas d'intentionnalité en Dieu. Tandis que pour un être spirituel, il projette toujours un peu l'intentionnalité en Dieu. Alors c'est très beau, mais ça reste du côté de la beauté. Tandis qu'au contraire, donc un point de vue esthétisme. L'esthétisme, vous voyez, c'est toujours très dangereux, le point de vue spirituel qui ne comprend pas le point de vue mystique. Le point de vue mystique se fonde toujours sur le point de vue de l'omniprésence. Et l'omniprésence de Dieu, c'est contact de substance à substance. Et ce contact de substance à substance est transformé par la grâce pour devenir objectif. C'est la personne même de Dieu qui devient l'objet de notre connaissance. Et c'est la personne même de Dieu qui, devenant l'objet de notre connaissance, nous fait comprendre comment l'aspect mystique dépasse le point de vue de l'intentionnalité. ça c'est un problème très très important sur lequel on se retrouve tout le temps. Bon, c'est un problème constant. Il faut donc bien distinguer les deux. L'ordre surnaturel peut donner une mystique. Le point de vue spirituel, c'est le point de vue philosophique. Le philosophe ne tombe... Alors voyez les confusions qu'on peut faire à la Plotin ou l'inverse. Si on fait des confusions, on confond l'ordre spirituel et l'ordre mystique. Il s'agit de bien distinguer l'ordre spirituel et l'ordre mystique. C'est deux choses différentes. Donc l'ordre spirituel demeure dans l'intentionnalité, et le point de vue mystique fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus dans la communication de la grâce. Parce que dans la communication de la grâce, il y a contact de substance à substance. Contact de personne à personne. Alors, le point de vue, vous voyez, qu'il n'y a pas d'instrumentalité dans la création, nous montre tout de suite ce contact de personne à personne. S'il y avait au contraire une possibilité d'un instrument, ça prouverait qu'on resterait dans l'intentionnalité. C'est une manière, si vous voulez, de regarder le problème de la cause première et de l'instrument d'une autre manière. Au fond, l'instrument ne peut se comprendre qu'au niveau de l'intentionnalité. C'est la virtus de la cause principale qui est transmise. Quand on est au-delà de l'ordre de l'intentionnalité, alors à ce moment-là, il ne peut plus y avoir d'instrument, parce qu'on touche quelque chose de substantiel et premier. Article 6, créer appartient-il en propre à l'une des personnes divines? Alors ça, c'est toute la question du traité de la création par rapport au traité de la très sainte Trinité. Quel est le lien qui existe entre les deux? Vous voyez bien, hein? Ça, c'est très très important au point de vue des théologiens. Pour les théologiens, c'est très très important. Pour les philosophes, c'est moins important. Mais pour les théologiens, c'est très important de voir. Traité de Dieu dans son essence. C'est comme ça que saint Thomas l'appelle. Unité de Dieu. Simplicité de Dieu. Dieu est un dans son essence. Puis, traité de la Trinité. Vous êtes dedans, alors c'est pas la peine d'expliciter, mais vous voyez que le traité de la très sainte Trinité se fait par le point de vue de la vie. C'est très intéressant de voir ça. Le traité de l'essence de Dieu et de son unité commence par le point de vue de l'être, puis on assume la vie. Tandis qu'au contraire, le traité de la très sainte Trinité se fait d'abord par les analogies de la vie, parce que c'est les seules analogies qui nous permettent de comprendre la fécondité en Dieu. C'est par la fécondité que je peux voir qu'il y a en Dieu diversité. Et de la vie, j'assume l'être. Je prends même de la relation. Bien comprendre ça. On passe de la procession à la relation. La procession est au niveau de la vie et la relation est au niveau de l'être. Donc c'est toute la structure du mystère de la très sainte Trinité qu'il faut bien comprendre au point de vue théologique scientifique. La vie et l'être. Alors que l'unité de Dieu, c'est l'être et la vie. On passe de l'un à l'autre. Tandis que l'on fait l'inverse. Ça, c'est toute la souplesse du théologien qui essaie d'aborder le problème, le mystère, sous l'angle par lequel il est le plus proche de nous, par lequel nous avons les analogies. Toutes les analogies de la très sainte Trinité reposent sur les analogies de la vie, de la fécondité, la procession, et pas l'être dans l'évangile. Oui, alors je sais très bien, on dit « je suis ». Quand Jésus dit « je suis », c'est le point de vue de l'être, c'est le point de vue de l'unité, c'est pas le point de vue de la diversité. On dit que la paternité, c'est au niveau de la vie. Alors ensuite, vous avez création. Voilà les trois grands aspects de la prima pars. Dieu dans son unité, le Dieu trine et la création. La création regarde en premier lieu le point de vue de l'unité de Dieu. C'est Dieu dans son unité qui est créateur. Le créateur est unique. Un seul Dieu, tu adoreras. Un seul Dieu, tu adoreras. Or, on l'adore en raison de la création. Il ne faut pas l'oublier. C'est par l'adoration que j'ai l'objet formel de l'adoration. Tu vois ? Alors, la création regarde l'idée de Dieu. Et je me pose la question, comment le mystère de la très sainte Trinité va intervenir dans le problème de la création ? Parce que ce Dieu un qui crée, il est trine. Alors, est-ce que, de fait, dans le mystère de la création, je vais retrouver les vestiges du Dieu trine ? Créé appartient-il en propre à l'une des personnes divines ? Voici la réponse de saint Thomas. D'après Denis, toutes choses créées sont communes à toute la divinité. Quod communia totius divinitatis sunt omnia causalia. Autrement dit, la causalité relève de l'unité de Dieu. Et la causalité ne regarde pas les personnes. Je ne peux pas dire que le Père cause le Fils. Et je peux dire que Dieu créateur cause les créatures. Vous voyez, alors c'est cette fameuse distinction qui est très importante à bien saisir au point de vue proprement théologique. Le problème des processions et le problème de la création. Procession, émanation, immanent, création, émanation, transitive, si j'aime, si vous voulez. Action immanente, action transitive. Hein. Alors, simplement, on voit le mot émanation pour les deux, c'est ça qui est très intéressant. Et dans le contrat gentilesse, vous savez, le grand article du contrat gentilesse qu'il faut souvent revoir quand il s'agit du mystère de la très sainte Trinité, parce que c'est peut-être là où saint Thomas est le plus explicite, quand il montre toutes les émanations successives, on voit bien que l'émanation la plus parfaite, c'est une émanation intérieure, immanente dans la vie. Et puis l'émanation transitive, c'est l'action transitive, c'est le facere. Oui, mais une émanation immanente. Et l'émanation immanente, c'est ce qui va être le support analogique, pour notre pensée, des processions divines. C'est par les processions que j'entre dans le mystère de la fécondité divine, et je l'explicite philosophiquement par l'émanation immanente. Le mot procession, prochessie, est dans l'écriture. Le mot émanation n'est pas. Donc vous avez bien là le passage de la foi toute nue à la pensée théologique. La création est dans l'écriture, j'y crois, Dieu est créateur, et j'explique pensée théologique. C'est intéressant, il faut toujours faire ça avec beaucoup d'attention. Il faut être très attentif au langage qui provient de l'écriture et à la manière dont le théologien explicite. Et il faut relever les mots. Ce serait très intéressant dans saint Thomas, quelqu'un qui serait très très qui connaîtrait parfaitement l'écriture, il devrait souligner, voyez, en rouge et en vert, hein, ou en rouge et en or, ce qui relève de l'écriture et ce qui relève de la pensée théologique. On ne peut pas confondre. Ce qui relève de l'écriture, c'est la foi. J'adhère au mystère de la très sainte Trinité dans ma foi. C'est pas le théologien qui me fait découvrir ce que c'est que la très sainte Trinité, heureusement. C'est la foi. Dieu se révèle à moi. Et il se révèle ego processi. C'est le problème des processions. Et le théologien va essayer d'expliciter ce que c'est ces processions en se servant de l'émanation. L'émanation immanente. Une action immanente. Action ou émanation. Une action, il prend émanation parce que justement il veut montrer que cette action est source d'un fruit. C'est pour ça qu'on dit émanation. Source d'un fruit. Et émanation immanente pour montrer que ce fruit est à l'intérieur même de l'émanation, qui n'est pas extérieur. C'est pas la différence d'une action transitive. Dans l'action transitive, le fruit est extrinsèque. C'est pour ça que c'est une émanation transitive. Le fruit est extrinsèque. Tandis que dans l'émanation immanente, le fruit est intrinsèque. Donc ça, c'est pour vous rappeler, pour comprendre ce que nous allons voir maintenant. Alors, vous voyez tout de suite la question. Nous avons vu tout le problème de la création repose sur le problème de la causalité. Et comme cela que saint Thomas introduit, hein, le mot causalité est un mot de théologien, ce n'est pas du tout un mot de foi. Cherchez à travers toute l'écriture, vous ne trouverez pas la causalité. Je ne crois pas. Si vous la voyez, hein, vous me le direz. Je ne crois pas que la causalité soit présente dans l'écriture. Le créateur, c'est tout. Et le théologien traduit tout de suite création par causalité. Troll de truc. Traduit la création par causalité. C'est un fait. Alors, on va se demander si la causalité peut affecter une des trois personnes. Ou si la causalité affecte l'essence même de Dieu. Vous voyez le problème, hein, l'enjeu du point de vue théologique qu'il faut bien saisir. Alors, Denis, toutes choses sont créées, sont communes à toute la divinité. Créer, c'est proprement causer, vous voyez bien. Créare est proprié causare, esserero. C'est proprement causer, laisser des choses. C'est causer, c'est cause, donc créer, c'est causer l'exister des choses, l'acte d'être des choses, laisser. Et comme tout agent, donc comme toute agence, cause efficiente, comme tout agent, opère à sa ressemblance, le principe de l'action peut se juger à son effet, car c'est le feu qui engendre le feu. C'est pourquoi créer appartient à Dieu en raison de son être. Et son être est identique à son essence, laquelle, à son tour, est commune aux trois personnes divines. On voit donc que créer n'est pas le propre à l'une des personnes, mais commune à toute la Trinité. Vous voyez le métaxu, hein ? C'est par le point de vue de l'effet propre de la création. Créer, c'est causer l'essai. Or, il y a un lien entre l'effet et la raison formelle de la cause. Puisque la raison formelle de la cause, c'est justement ce qu'on retrouve dans l'effet. Donc, il faut comprendre que créer, qui est communiquer l'essai, appartient directement à l'essai divin. Or, l'essai divin est un. Donc, la création appartient à Dieu dans son unité. Cependant, cette tabelle, les divines personnes, en raison de leur procession même, ont une causalité touchant la création des choses. Alors, c'est très difficile à bien saisir. Hein? Cette tabelle, divine et personnée, secundum rationem, souhait processionniste, selon la raison de leur procession, ont une causalité par rapport à la création des choses. Aben causalitate. Cependant, les divines personnes, en raison de leur procession, ont une causalité touchant la création même des choses. En effet, comme on l'a montré plus haut, à propos de la science et de la volonté divine. Dieu est cause des choses par son intelligence et par sa volonté, comme l'artisan est cause de son œuvre. Or, l'artisan opère par le verbe mental qu'il conçoit et par l'amour que sa volonté porte à quelque chose auquel il s'applique. De la même manière, donc, Dieu le Père a réalisé la créature par son Verbe, qui est le Fils, et par son amour, qui est l'Esprit Saint. D'après cela, les processions des personnes divines sont les raisons de la production des créatures, pour autant qu'elles incluent les attributs essentiels qui sont la science et le vouloir. Pas commode à bien saisir, hein? C'est important, très important à bien saisir. La manière dont saint Thomas introduit le mystère de la très sainte Trinité dans le problème de la création. On comprend très bien que ça ne peut pas être indifférent, trois personnes divines, de créer. Puisque l'unité de Dieu, il est à l'intérieur des trois personnes. Donc si c'est une œuvre commune, c'est en même temps une œuvre des trois. On pourrait dire ça avec un gros bon sens. Hein. C'est impossible autrement. Si c'est une œuvre commune, c'est l'œuvre des trois. Il n'y a pas eu d'anarchie. L'une qui a dit oui, il faut créer, l'autre a dit non, il ne faut pas créer. Ils sont dans l'unité. Donc s'ils sont dans l'unité, il faut nécessairement retrouver à l'intérieur de l'acte créateur. Alors, l'acte créateur, c'est causer, laisser. Donc, nous retrouvons toujours la même idée fondamentale de tout ce traité sur la création. Qu'est-ce que c'est que créer? C'est causer, laisser. Il faut comprendre ça. Aucune autre action ne peut être dite créer, laisser. Nous n'en créons jamais l'essai. Nous créons des formes, des relations, tout ça. Et la créativité, elle est au niveau de la forme. Et non pas au niveau de l'essai. Tandis que créer, c'est causer l'essai. Voilà la causalité première. Si créer, c'est causer l'essai, on sent très bien que ça relève de l'essai de Dieu, puisque tout agent agit semblablement à lui-même, et en fonction de ce qui est causé, je peux remonter à la cause, c'est donc l'ipsum esse subsistens, qui est la raison formelle de la création, communication de l'esse. Vous voyez, c'est le raisonnement inverse, et c'est intéressant, du premier article. Le premier article, de la participation de l'essai, je remonte à la causalité. Ici, de la causalité, je remonte à l'ipsum esse subsistens. C'est normal, je peux le faire. Je peux très bien faire ça, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Ces deux raisonnements qui se tiennent. Hein. Ces deux raisonnements se tiennent. Donc, c'est l'ipsum esse subsistens qui est causalité de l'essai. Alors, l'ipsum esse subsistens en Dieu, c'est la simplicité même de Dieu, et non pas la trinité des personnes. Donc, nécessairement créé, relève de la simplicité absolue de Dieu. Dieu crée parce qu'il est absolument saint. Il n'y a qu'un être absolument saint qui peut créer. C'est du reste très beau. Mais ça fait comprendre comment l'artiste tend vers la simplicité. Le grand artiste, le premier artiste de tous les artistes, hein, c'est Dieu dans sa création. Et c'est la simplicité. C'est la simplicité qui rend raison de la création. Ça, c'est très très fort et c'est très beau, parce que ça montre que ce qu'est le créateur comme créateur. C'est le point de vue de la communication de l'essai qui relève sur l'ipsum esse subsistens. Mais puisque Dieu comme créateur est créateur selon sa sagesse, il est créateur selon son amour, les trois moments sur lesquels on remonte. De l'ipsum esse subsistens, je remonte à la sagesse, de la sagesse, je remonte à l'amour. Si Dieu est créateur, c'est parce qu'il est amour. Si Dieu est créateur, il est sagesse. Et dans la création, je retrouve la modalité de l'amour et de la sagesse. Mais la ligne, c'est l'ipsum esse subsistens. Vous voyez, je vous dis ça en passant, parce que c'est intéressant toujours à voir. Si je fais donc un traité de Dieu sans l'être, n'est-ce pas ? Parce que si je fais un traité de Dieu sans l'être, vous voyez que la création passe au bleu. Je ne peux plus rien comprendre à la création. Alors, j'appuierai la création sur la sagesse et l'amour. Et je n'appuierai plus sur l'ipsum esse subsistens, puisque je ne veux pas regarder l'être en Dieu. Si je ne regarde pas l'être en Dieu, je ne peux plus comprendre la création. C'est important ça, je vous ai déjà dit, hein, ce congrès des théologiens auxquels j'avais assisté à Rome, et bien, dans lequel il y avait des grands théologiens de Lyon, de Paris, de Louvain, et bien tous ces théologiens, aujourd'hui, qui enseignent, tous ces théologiens disaient le traité de la création ne doit plus être regardé par la théologie. Alors Alors vous voyez les conséquences. C'est important. Parce qu'alors vous ne pouvez plus fonder ce que c'est que l'adoration, donc plus d'adoration. Vous ne pouvez plus saisir ce que représente la transcendance de Dieu. Alors vous n'avez plus que l'immanence de l'ordre surnaturel. Et vous ne comprenez plus ce que c'est que l'ordre surnaturel si vous ne comprenez pas l'ordre naturel. Vous ne comprenez plus ce que c'est que la rédemption si vous ne voyez pas ce que c'est que la création. Alors, c'est très significatif ça, c'est très très significatif. C'est une nouvelle théologie qui ne veut plus se baser sur la métaphysique et qui se base sur une anthropologie. Alors, si je remonte de l'ipsum esse subsistens à la sagesse et à l'amour, je dis à l'amour et la sagesse, ça c'est la vie. Je remonte de l'être à la vie. Toutes les processions reposent sur l'amour et la sagesse. Donc, si Dieu, comme créateur, est sage et qu'il crée dans l'amour, nécessairement, il faut découvrir à l'intérieur même de l'ordre de la création ce lien avec le point de vue de la sagesse et le point de vue de l'amour qui commande les deux processions, procession du verbe, procession de l'amour. Alors je relis pour que vous voyez bien et que vous saisissiez bien ce petit raisonnement de saint Thomas. Cependant, les divines personnes, en raison de leur procession même, ont une causalité touchant la création des choses. En effet, comme on l'a montré plus haut, à propos de la science et de la volonté divine, Dieu est cause des choses par son intelligence et par sa volonté, comme l'artisan est cause de son œuvre. Or, l'artisan opère par le verbe mental qu'il conçoit et par l'amour que sa volonté porte à quelque chose auquel il s'applique. De la même manière, donc, Dieu le Père a réalisé la créature par son Verbe, qui est le Fils, par son amour, qui est l'Esprit Saint. D'après cela, les processions des personnes sont les raisons de la production des choses, pour autant qu'elles incluent les attributs essentiels qui sont la science et le vouloir. D'après cela, les processions des personnes divines sont les raisons de la production des créatures. Alors ça, c'est très très fort, mais c'est pas commode du tout à comprendre. Et secundum processiones personarum sont rationes productionis creaturarum. In quantum, in tudunt, essentialia attributa. Vous voyez, la très grosse difficulté, c'est qu'il y a un petit peu équivoque dans ce raisonnement. Vous savez que saint Thomas dit qu'il faut toujours, quand il s'agit de l'amour et de la connaissance en Dieu, qu'il faut toujours saisir les notions essentialitaires, notionnalitaires. Hein, vous avez vu ça. Il faut saisir l'amour de Dieu ou comme un amour unique en Dieu ou comme un amour qui est source ou qui est le fruit de cet amour notionnalitaire. On doit toujours employer les deux. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'intuition d'être la Sainte Trinité. Si vous aviez l'intuition d'être la Sainte Trinité, ce serait facile, mais vous ne l'avez pas. Et vous devez toujours, à l'intérieur du mystère de la Très Sainte Trinité, maintenir la simplicité absolue de Dieu. Dieu est absolument simple. À l'intérieur même des processions, je découvre toujours la simplicité de Dieu. Or, dans la simplicité de Dieu, je parle de l'amour et de l'intelligence de Dieu. Dieu, la vie de Dieu. C'est la vie de l'intelligence, et c'est ce qu'on appelle la science de Dieu. C'est comme ça saint Thomas l'appelle. Et puis il y a la volonté, donc il y a l'amour. Donc, essentialitaire, ça. Quand j'attribue la science et l'amour à Dieu, essentialitaire, je demeure dans la simplicité. Si, au contraire, je les regarde comme les processions, je dis que Dieu, source de toute connaissance, ou la connaissance de Dieu à l'égard de lui-même, est source du Verbe, notionnalité. Je regarde à ce moment-là le point de vue de l'intelligere de Dieu, de la science de Dieu, de la contemplation de Dieu, Dieu la regarde en tant qu'elle est source du Verbe. Et ça, je le fais dans la foi. Vous voyez bien que je touche la même réalité, mais sous deux aspects différents. Je touche la même réalité parce que c'est toujours le mystère de Dieu dans sa simplicité, mais dans deux perspectives différentes, puisque dans une perspective, c'est la simplicité, de l'autre côté, c'est le Verbe de Dieu qui est source de fécondité. Donc il y a un double regard. Et c'est pour ça qu'on dira essentialitaire, notionnalitaire. Ça, il faut bien le saisir. Or, dans ce petit article ici, vous voyez que saint Thomas passe de l'un à l'autre, sans crier gare. Et c'est important de le souligner, parce que ça nous fait comprendre que lorsqu'il s'agit de la création, le point de vue essentialitaire est premier. Mais cependant, je dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui me permet de dire que Dieu crée en tant qu'il est un, mais il crée par son intelligence et par sa volonté, et par son intelligence et par sa volonté, la création est liée au mystère de procession. On ne peut pas dire plus. C'est bien ce qu'il donne comme sens de l'article, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il peut dire cette fausse chose, qu'il faut bien comprendre. D'après cela, les processions des personnes sont les raisons de la production des créatures. Et secundum hoc, processiones personarum sunt rationes productionis creaturarum. Donc les processions sont les raisons de la production des créatures, en tant includunt essentialia tributa. Essentialita tributa. En tant qu'ils incluent des attributs essentiels qui sont la science et la volonté. Vous allez voir un peu mieux en voyant les objections. Vous voyez comme c'est très subtil, hein. C'est un article très très difficile à bien saisir. Vous n'avez qu'à réfléchir tout simplement sur cette conclusion. Cette conclusion, elle est magnifique, elle est très audacieuse, et elle est très difficile à bien saisir. Selon cela, les processions des personnes sont les rationes, donc les raisons de la production des créatures. C'est pas commode à saisir. Les processions sont la raison de la production des créatures. Or, on a dit précédemment que toute la ratio formaliste de la création, c'est l'essai, participer, qui relève de l'unité de Dieu. Et la simplicité. Alors, vous voyez, c'est pas contradictoire, mais après avoir fait la distinction entre essentialitaire et notionnalitaire, je suis obligé de voir que je ne peux pas les séparer. Et donc, l'unité de Dieu comme créateur va nécessairement impliquer le mystère de la fécondité de Dieu. Et donc, les processions divines seront les raisons de la production des choses. Sagesse, science et amour. Alors, on va voir tout de suite les objections, et puis après, si vous avez des questions là-dessus, il faut les poser, parce que c'est une question très importante. Première objection. La raison qui ferait croire est celle-ci. Ce qui est premier est la cause du subséquent. Vous voyez, ça, c'est une manière tout à fait particulière de regarder le principe de causalité. C'est à la manière kantienne, n'est-ce pas ? Saint Thomas est très kantien dans ses objections. Quod est prius, est causa, eius quod est post. Ce qui est premier est la cause du subséquent. Et le parfait est cause de l'imparfait. Or, la procession des personnes divines est première par rapport à la procession de la créature. Elle est plus parfaite, car la personne divine procède de son principe en parfaite similitude. La créature représente imparfaitement le sien. Donc, les processions des personnes divines sont la cause de la procession des choses. Et ainsi, créer appartient à la personne. Très très jolie comme objection. Vous êtes tous d'accord. Alors, réponse. Le premier argument est donc tout résolu, puisque nous accordons que les processions des divines personnes sont cause de la création. Alors c'est encore mieux. Processiones divinarum personarum sont causa creationis. Donc quand cet homme a dit ratio, il veut dire causa. Dans le corps de l'article, il dit que les processions sont la ratio. Et dans la réponse à l'objection, il dit causa. C'est extraordinaire, c'est très rare qu'il fait ça. Vous voyez bien, regardez le corps de l'article, la conclusion du corps de l'article, c'est ratio, et la réponse est causa. Les processions sont donc cause de la création. Les processions sont ratio de la création. Simplement ce qu'il dit, ils ont tous compris. La tête, c'est évident, c'est bien évident. Alors, réponse à la seconde objection. C'est pas commode, mais c'est là où on pénètre là vraiment dans le mystère. La création relève de l'unité de Dieu, et la création cependant relève des trois personnes. Et elle n'est pas propre à telle ou telle personne. Donc, la causalité s'enracine dans l'unité de ses subsistances, mais cette causalité a un mode de sagesse et un mode d'amour. Par le mode de sagesse et le mode d'amour, la procession ratio et causa. Alors, seconde objection. En outre, je vous dis, ça touche à un problème très très délicat et très intéressant, parce que c'est tout le problème du passage de la théologie scientifique à la théologie mystique. La théologie mystique mettra en lumière, d'une façon très étonnante, comment toute la création dépend des trois personnes divines. Et on retrouvera à travers toute la créature le reflet des trois personnes divines. Ça, c'est l'attitude mystique. Hildegarde, hein. Quand vous voyez Hildegarde parlant de... C'était, je m'en souviens, un petit congrès auquel j'ai assisté. Il y avait le grand spécialiste de Hildegarde. Hein. C'était un Autrichien, un prémontré autrichien, qui ne connaît pas parfaitement Hildegarde, et qui connaît ces révélations de Hildegarde. C'est une mystique du Moyen-Âge très étonnante. Et alors, toute la vision sur le mystère de la création, une vision trinitaire. C'est les mystiques, tous les mystiques auront une vision trinitaire de la création. La théologie scientifique dit, la création de l'être. Il n'y a pas de contradiction. Il y a deux regards différents. Et saint Thomas, vous voyez, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que saint Thomas fonde ici le regard mystique. Il le fonde en disant causa et ratio. Donc c'est pas opposé, alors on opposera, on dira, vous voyez, le regard mystique, le regard de saint Thomas, c'est opposé, mais pas du tout. Regardez attentivement, saint Thomas fond le regard mystique. Oui.
Qu'est-ce qui est plus propre de dire ratio ou de
regard? Les deux. Les deux sont propres. Vous voyez, il dit ratio, pour bien préciser, parce que c'est la ratio causalitatis. Et la raison formelle de la création, c'est l'essai, il l'a dit. Alors ici, il reprend que la procession est ratio, et en même temps les causes. Alors vous voyez, il y a les deux. Hein. Cause inclut vers l'efficience, ratio inclut la détermination. Je ne peux pas dire plus propre, les deux sont l'un dans l'autre. Mais c'est intéressant de voir qu'il dit causa et ratio et causa. C'est intéressant au point de vue de la précision de saint Thomas. Le corps de l'article est toujours plus précis. Toujours. Les définitions tombent un petit peu déjà toujours vers le point de vue des propriétés. Hein. Toujours un tout petit peu. Ici, causa, ratio et causa, c'est intéressant à voir. Donc, voyons ici cette seconde objection. En outre, les personnes divines ne se distinguent l'une de l'autre que par leur procession et leur relation. Quand donc on attribue diversement quelque chose aux personnes divines, c'est que cela leur appartient en raison de leur procession ou de leur relation. Or, la causalité divine à l'égard des créatures est ainsi attribuée diversement aux diverses personnes. Car, dans le symbole de la foi, on attribue au Père d'être créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Au Fils, on dit que par lui, tout a été fait. Au Saint-Esprit, on assigne le rôle de maître et de source vivifiante. C'est donc que la causalité à l'égard des créatures appartient aux personnes en raison de leur procession et de relation. Réponse de saint Thomas. Oui, au fond, vous adhérez à ça. Vous êtes tout à fait d'accord avec cette objection. C'est le credo. Vous ne pouvez pas être d'accord. Réponse de saint Thomas. Le second vient être examiné davantage. Donc, ça c'est la glose marginale. Sans doute, la nature divine est commune aux trois personnes divines. Mais elle leur appartient dans un certain ordre. Car, alors ça c'est toute la question. Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Il y a une émanation immanente. S'il y a une émanation immanente dans les personnes divines, dans la vie de Dieu, on peut dire qu'il y a un certain ordre. L'ordre, c'est la conclusion du théologien. Le théologien dit que dans la très sainte Trinité, il y a un ordre. Taxis. Il y a un ordre dans la très sainte Trinité. De même donc, la vertu créatrice, bien que commune aux trois personnes, leur convient dans un certain ordre. C'est-à-dire que le Fils la tient du Père, et le Saint-Esprit de l'un et de l'autre, en sorte que la qualité de créateur est attribuée au Père, comme à celui qui ne reçoit pas son pouvoir créateur d'un autre. Du Fils, il est dit dans saint Jean, que par lui tout a été fait, parce que tout en possédant le même pouvoir, le même pouvoir, il le tient d'un autre. Car la proposition par a coutume d'indiquer une cause médiate, un principe qui a lui-même son principe. Oui. La paternité du Fils, c'est la paternité du Fils, c'est pas la paternité du Père. C'est la même paternité, et cependant il y a quelque chose de distinct. Parce que c'est une paternité qui est reçue du Père. Parce que le Fils aussi est Père. Quant au Saint-Esprit, qui tient ce même pouvoir de tous deux, on lui attribue de gouverner en maître et de vivifier les créations du Père et du Fils. Aussi bien, il y a une raison générale de cette attribution, tirée de la façon dont les attributs essentiels de la divinité sont appropriés aux trois personnes. Le fameux mot « approprié », vous savez bien que c'est comme ça que s'en tire le théologien de théologie scientifique. Quand il ne sait plus, il dit approprié. Il est très très difficile de voir ce que ça correspond dans la réalité. Modus intelligendi, c'est notre manière de connaître. Dans la réalité, nous verrons un jour. Approprié. Ainsi qu'on l'a dit plus haut, on attribue au Père, par appropriation, la puissance qui se manifeste surtout par la création. En raison de quoi on le dit créateur. Au Fils, on approprie la sagesse par laquelle opère l'agent intelligent. Et c'est pourquoi l'on dit du Fils que par lui, toutes choses ont été faites, donc par sa sagesse. Enfin, au Saint-Esprit, on approprie la bonté à qui appartient le gouvernement conduisant les choses vers leur fin convenable. Et on lui attribue la vivification parce que la vie consiste en une sorte de mouvement interne et que le premier moteur des êtres est la fin et le bien. Vous voyez que saint Thomas s'en tire par l'appropriation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'appropriation? Vous l'avez vu en théologie sur la très sainte Trinité, et vous verrez que c'est extrêmement difficile de se dire ce que c'est que l'appropriation. c'est de saisir un lien particulier qui existe entre chaque personne divine et la créature. Il y a un lien particulier entre la toute-puissance et le Père. Et c'est pour ça que les mystiques attribueront toujours au Père la toute-puissance. La paternité, l'autorité. On l'attribue au Père. En premier lieu, par appropriation. Vous voyez, alors ce qui est très intéressant dans ce que dit saint Thomas, et ça je crois que c'est très important, saint Thomas ne le redit pas de la même façon dans son traité de la très sainte Trinité. Ce qui est très intéressant ici, c'est que tout le mystère de l'appropriation repose sur la question de l'ordre. Et je crois que c'est ça la clé, au point de vue de l'intelligence. C'est la question de l'ordre. C'est parce que dans la très sainte Trinité, il y a un ordre, c'est à cause de ça que nous pouvons légitimement parler d'appropriation. Il y a le Père qui est la source. Il y a le Fils qui reçoit tout et qui est source. Et il y a l'Esprit Saint qui reçoit tout des deux et qui est source. Alors, l'appropriation consiste justement à mettre en valeur ce qui caractérise celui qui est premier. Celui qui est premier en étant second, celui qui est troisième en étant premier. Alors par là, vous comprenez ce que c'est que l'appropriation.
Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Si vous avez des questions, posez-les vous-même, écrivez-les, parce que si vous ne les écrivez pas aujourd'hui, vous les oublierez. Et c'est très important, cette question-là. Très important pour toute la question de la théologie scientifique et de la théologie mystique. Oui.